Ah, c'est un motif de consultation très fréquent. Hein. Et bien sûr, le traitement va dépendre de la cause. On dégage, nous cliniciens, deux grandes variétés de troubles de l'odorat, les troubles dits de transmission, c'est-à-dire que les odeurs n'arrivent pas au centre, n'arrivent pas à la tâche olfactive, ça s'appelle, et puis les troubles dits de perception, c'est-à-dire que les odeurs sont bien captées par ces cellules sensorielles, mais elles se transmettent mal dans le cerveau et donc ne peuvent pas être analysées. Donc tout ce qui relève de la transmission va en général être plus facilement accessible à un traitement. La grande cohorte de ces patients sont des gens qui ont ce qu'on appelle des rhinites chroniques ou des rhinosinusites chroniques, qu'elles soient d'origine allergique ou non, ou une maladie très fréquente qui se développe beaucoup dans nos sociétés modernes, qui s'appelle la polypose nasosinusienne, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont des polypes qui se forment dans le nez, qui souvent ont de l'asthme d'ailleurs en même temps, et ce sont donc des patients qui à cause de ces polypes ne peuvent plus percevoir les odeurs parce que le chemin est bouché, si vous voulez. Donc les traitements peuvent être de deux ordres dans ce cas-là, les traitements médicamenteux à base de corticoïdes, soit en pulvérisation nasale, soit des fois ce qu'on appelle péros, c'est-à-dire par la bouche, et qui débouchent assez bien et qui entretiennent un relativement bon confort et permettent aux gens de retrouver de l'odorat. Et si ces traitements ne sont pas efficaces, il faut à ce moment-là éventuellement discuter des gestes chirurgicaux pour libérer les espaces et permettre aux odeurs de circuler. Donc voilà la grande cohorte. La deuxième, ce sont les gens qui ont des surdités dites de perception. L'essentiel de ces patients, souvent, ce sont des gens qui ont des traumatismes crâniens, qui ont donc une dilacération des fibres sensorielles. Et donc, là, la récupération, elle est très aléatoire, parce qu'il n'y a pas de traitement. C'est la nature qui, quand elle est bonne mère, permet de récupérer. Il y a les gens qui ont perdu l'odorat après un banal rhume. Donc, les cellules sensorielles se détruisent. Et heureusement, ces cellules sensorielles ont une bonne capacité de récupération. Et elles peuvent se régénérer, mais pas toujours. Donc on peut perdre l'odorat après un banal rhume et le récupérer, heureusement, dans les mois qui suivent. Et la dernière cohorte, ce sont les gens qui ont des maladies neurologiques, style sclérose en plaques, Alzheimer, maladie de Parkinson. Et là, malheureusement, nous n'avons pas encore actuellement le moindre traitement efficace à leur proposer.
Est-ce que les troubles de l'odorat de différents types, quels qu'ils soient, sont des problèmes pris au sérieux en médecine auxquels on consacre beaucoup de moyens pour essayer de résoudre ?
Oui, bien sûr. Il y a un intérêt, ou je dirais peut-être un regain d'intérêt pour l'olfaction, qui est un système sensoriel qui a probablement été un petit peu délaissé, mais depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de recherches qui sont menées, et on peut espérer dans les années à venir des choses intéressantes à proposer aux patients. Mais c'est pris très au sérieux, à la fois sur le plan clinique pour nous, mais aussi par les neurobiologistes qui, eux, établissent beaucoup de recherches sur les relations entre l'olfaction et le comportement des individus. Et il y a des recherches très intéressantes qui sont menées actuellement. Oui.
Quand est-ce, à partir de quel moment, selon vous, est-ce qu'il faut consulter ?
Mais ça, c'est une notion très subjective. Hein. Chaque individu perçoit les choses et c'est lui qui va exprimer le besoin de consulter. Mais souvent, les gens vont peut-être venir consulter en premier parce qu'ils ont des sensations de nez bouché, par exemple. Et on va découvrir que derrière, il y a ce qu'on appelle une hyposmie, donc une anosmie. Et des fois, ils vont venir consulter dans les suites, justement, d'un accident et d'un traumatisme crânien, parce que là, ils sentent une rupture très brutale, où donc quand ils ont eu un rhume, et effectivement, il y a deux catégories de patients. Il y a ceux qui ont une perte très rapide et qui le remarquent, puis des gens qui ont une maladie chronique qui évolue et qui finalement s'habitue un petit peu à cette hyposmie et qui met un petit peu plus de temps à consulter. Mais effectivement, il ne faut pas le voir comme une fatalité. Dès qu'on sent qu'il y a une difficulté, il faut consulter son médecin traitant ou son otorhinolaryngologiste afin de au moins de faire le point.
Est-ce qu'il existe en Suisse des associations, des centres ou des endroits où on peut trouver des informations à ce sujet ?
J'ai cherché et j'avoue que j'en ai pas trouvé. Je sais qu'il y en a en France voisine et en Suisse, j'en ai pas trouvé. Il faudrait peut-être effectivement solliciter vos auditeurs parce que ça pourrait intéresser ces 10 à 15% d'individus qui sont embêtés. Mais je pense que la première démarche, c'est peut-être d'aller d'en parler à son médecin traitant qui sera un bon relais.
Eh ben on va mettre ces informations là déjà sur le blog de Format A3. Patrick Parisato, on rappelle que vous êtes otorhinolaryngologue. Vous nous parliez ce matin des troubles de l'odorat. Et on vous remercie beaucoup d'être venu dans notre émission.
Eh bien, je vous remercie de votre invitation. Bonne journée à vous.